Vous écoutez, on lit pour vous.
Le VIH dans nos vies. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 26 mars 2024 dans le magazine Fugue. Le VIH, avec sa longue période d'incubation, ses modes de transmission et sa résistance aux efforts monumentaux pour mettre au point un vaccin et un traitement définitif, est l'une des maladies infectieuses les plus complexes, les plus éprouvantes et sans doute les plus dévastatrices que l'humanité ait eu à combattre. Si on a réussi à freiner son avancement et à prolonger la vie des personnes séropositives d'une manière incroyable, il reste néanmoins plusieurs défis. Retour sur le passé et sur ce qui reste encore à surmonter. Au début, comme cette maladie ne semble toucher que les hommes homosexuels, elle est d'abord nommée « Gay-Related Immune Deficiency », GRID, puis renommée « Syndrome d'immunodéficience acquis », SIDA, afin de mieux décrire ce qu'elle est vraiment. La peur de cette nouvelle maladie se répand plus vite que le virus. Des communautés sont objets de discrimination. Des professeurs renvoyés, des victimes se retrouvent isolées. En réponse à l'homophobie rampante, associée de plus en plus au VIH, des individus se rassemblent à Montréal pour créer des réseaux de soutien et des groupes de défense. Ces groupes exigent des ressources pour l'étude du VIH, des services pour les personnes vivant avec la maladie et des politiques publiques offrant des protections juridiques et réduisant la discrimination. La clinique L'Actuelle, véritable pionnière dans le développement des connaissances en matière d'ITSS et de VIH-SIDA, ouvre ses portes en 1987. La même année, le gouvernement du Québec, dans sa première phase de la stratégie provinciale contre le SIDA, reconnaît la nécessité de soutenir la dizaine de groupes communautaires d'intervention SIDA actifs au Québec. La première journée mondiale de lutte contre le sida se tient le 1er décembre 1988 et devient rapidement l'une des journées commémoratives les plus réussies dans le monde. Au fil des ans, entre 1988 et 1998, plusieurs hommes séropositifs, dont Francis Bates et François Lallier, tiendront dans Fugue des chroniques d'information ou de témoignages parfois très émouvants sur la réalité de ce que c'est que de vivre avec le VIH. Par la suite, Fugue n'a jamais cessé d'aborder les questions en lien avec le VIH, comme celui-ci touche directement ou indirectement la réalité de tellement de ses lecteurs. En 1989, 10 000 congressistes sont réunis à Montréal pour la 5e conférence internationale sur le sida, qui porte sur le défi scientifique et social que pose la maladie. 300 manifestants, accusant le gouvernement canadien d'inertie et de négligence criminelle à l'égard des séropositifs, perturbent l'ouverture de la conférence. Pour la première fois, il y a participation de malades à un congrès médical. L'année suivante, on met sur pied la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida. COCQ-SIDA. Puis, l'homme d'affaires montréalais, Ron Farah, lui-même atteint du sida, met sur pied la Fondation Farah en 1992 qui se consacre principalement à la collecte de fonds pour améliorer la qualité des soins et services offerts aux personnes vivant avec le VIH-SIDA au Québec. Ça marche, voit le jour un an plus tard et récolte dès la première année 478 000 $. En développement depuis la fin de 1992, les premières thérapies antirétrovirales efficaces font enfin leur apparition. En 1996, et incorporent une molécule, le 3TC, un médicament issu des laboratoires de la firme québécoise Biochem Pharma et du travail du docteur Mark Weinberg du Centre de recherche sur le sida de l'Université McGill à l'hôpital général juif. Et avec l'arrivée des trithérapie efficace. La mortalité chute rapidement au Québec. L'espérance de vie des personnes vivant avec le virus augmente et moins de personnes contractent l'infection au VIH. C'est ce qui fait dire à plusieurs que nous sommes passés d'une épidémie dévastatrice à une maladie chronique gérable. Avec les années, les compagnies pharmaceutiques pressés par les comités de personnes vivant avec le VIH et le lobby des organismes VIH, poursuivent la recherche pour développer des traitements avec toujours moins d'effets secondaires. Au début des années 2010, on constate que le traitement par antirétroviraux a fait diminuer la charge virale à un niveau indétectable pour la très grande majorité des personnes vivant avec le VIH au Québec, et on commence graduellement à utiliser ces traitements pour la prévention, sous forme de PrEP. À la fin de 2015, START, un essai clinique d'envergure qui s'est déroulé sur plusieurs années, fournit des données probantes, indiquant que l'amorce du traitement peu après le diagnostic de VIH réduit de manière importante le risque de maladies graves et de mortalité. La même année, le Canada adopte les 90-90-90 cibles mondiales de traitement du VIH de l'ONU-SIDA. Selon les estimations canadiennes publiées à la fin de 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH étaient au courant de leur statut. 87% des personnes au courant de leur statut suivaient un traitement. Et 95% des personnes traitées avaient une charge virale indétectable. Cela signifie que le Canada a atteint deux des cibles 90-90-90. Les cibles sont maintenant de 95-95-95. Mais si la science a permis d'avancer et de faire en sorte que les personnes puissent vivre pratiquement normalement avec le VIH, comme s'il s'agissait d'une maladie chronique, d'autres défis sont toujours au rendez-vous. Depuis le début de l'épidémie, nous savons que la lutte contre le VIH-SIDA se gagnera tout autant par les avancées médicales que par les victoires en matière de droits de la personne et de justice sociale. Au Canada, des personnes vivant avec le VIH ont été déclarées coupables de graves infractions criminelles et condamnées à des peines d'emprisonnement considérables pour n'avoir pas divulgué leur séropositivité au VIH, même lorsqu'il n'y a pas eu de transmission et qu'elles ont pris des précautions très efficaces pour réduire le risque de transmission à un niveau très minime. Ce mauvais usage du droit criminel a d'abord été exercé en invoquant la santé publique. Pourtant, il n'y a pas de données probantes démontrant l'efficacité de la criminalisation de la non-divulgation de la séropositivité au VIH et des personnes vivant avec le VIH pour prévenir la transmission de l'infection. Il y a toujours du travail à faire, entre autres, au niveau de la criminalisation du VIH. Lorsque les gens sont séropositifs et indétectables, ils ne peuvent plus transmettre le virus. I égale I. Indétectable égale intransmissible. Rappelé en entrevue dans Fugue il y a 4 ans, Ken Montait, qui a dirigé ACCM durant 9 ans. Avant de prendre le fauteuil de directeur général de la COCQ-SIDA. Il faut que la justice et nos lois suive la science. Il faut en finir avec la criminalisation. Il y a encore cette image du passé chez une certaine partie de la population, et ce, alors que la vie des PV-VIH a évolué. Avec l'efficacité des thérapies antirétrovirales, il n'y a aucune raison scientifique de criminaliser une transmission potentielle qui n'a pas eu lieu. C'était « Le VIH dans nos vies », un texte d'Yves Lafontaine, paru le 26 mars 2024 dans le magazine Fugue.
Mesurer correctement la tension artérielle est plus compliqué qu'il n'y paraît, un texte de Raphaël de Rome, paru le 12 mars 2024 dans Québec Science. La pression artérielle est la force avec laquelle le sang pousse sur les parois de nos vaisseaux. On exprime sa valeur à l'aide de deux chiffres, par exemple 130 sur 70 mm de mercure. Le premier, le plus élevé des deux, désigne la pression systolique qui s'exerce au moment où le cœur se contracte pour faire circuler le sang dans l'organisme. Le deuxième désigne la pression diastolique qui correspond au moment où le cœur se relâche et se remplit de sang entre deux battements. Traditionnellement, la lecture se faisait sur un appareil doté d'une colonne de mercure. Voilà pourquoi on la mesure en millimètres de mercure. Les médecins n'ont pas toujours le temps de mesurer la tension artérielle de façon optimale. Au risque de surévaluer la tension des patients et patientes et de les traiter inutilement. À chaque rendez-vous de routine, on se retrouve les fesses sur la table d'examen, les pieds pendants, pour que notre médecin prenne notre pression. Le hic, cette méthode ne respecte à peu près aucune des recommandations médicales. L'hypertension artérielle est un problème de santé extrêmement courant qui concerne près de la moitié des gens de 55 ans et plus, indique le Dr Martin Junot, cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. C'est un facteur de risque important pour les AVC et les maladies cardiovasculaires. Et comme elle ne cause souvent aucun symptôme, on la surnomme la tueuse silencieuse. D'où l'importance de faire prendre sa pression à chaque rendez-vous médical. Mais comme la tension artérielle est fortement influencée par notre posture, il faudrait idéalement la mesurer alors qu'on est assis calmement depuis plusieurs minutes, dos appuyé, pieds à plat au sol, bras soutenus et brassard à la hauteur du cœur. À défaut de quoi, on obtient une valeur gonflée, révèle une étude américaine publiée l'automne dernier dans la revue eClinical Medicine, qui portait sur 150 volontaires adultes. Dans le premier groupe, on a mesuré la tension artérielle alors que l'individu était assis sur la table d'examen. Puis on répétait la mesure quelques minutes plus tard, cette fois dans un fauteuil ajustable conçu à cet effet. Dans le deuxième groupe, on a fait l'inverse. Dans le troisième groupe, les deux mesures étaient prises dans le fauteuil. Résultat, en moyenne, prendre la pression sur la table d'examen surestime les valeurs de 7 mm de mercure pour la pression systolique et de 4,5 mm de mercure pour la pression diastolique. Pour certains ou certaines d'entre nous, cela peut suffire à franchir le seuil entre la normalité et l'hypertension. Les signataires de l'étude évaluent que des millions d'individus considérés comme hypertendus ont peut-être en réalité une pression artérielle normale. Or, si on leur prescrit des médicaments hypotenseurs, ces personnes pourraient se retrouver avec une pression trop basse et par conséquent ressentir des vertiges, des étourdissements ou faire une chute. Aïe! Mesures répétées. Bien mesurer la tension artérielle prend du temps, mais les médecins sont pressés, indique le Dr Junot. On sait aussi que chez certaines personnes, le simple fait de se trouver dans un bureau médical fait grimper la tension artérielle. Ce syndrome du sarrau blanc, connu depuis des décennies, affecte entre 10 et 50% des gens, lisait-on dans Hypertension Research en 2015. Si notre tension est élevée lors du rendez-vous, notre médecin peut nous prêter un appareil portatif qui prend des mesures à intervalles réguliers pendant 24 heures. On notera ce qui se passe au moment où le brassard se gonfle. Partie de tennis, réunion stressante, pris dans le trafic, pour faciliter l'interprétation. En cas d'hypertension avérée, Les saines habitudes de vie, alimentation riche en fruits et légumes, exercice, gestion du stress, abandon du tabac, contrôle de l'alcool et du sel, sont aussi efficaces que les médicaments, note le docteur Junot. Le problème, c'est que le système de santé n'est pas fait pour aider les gens à changer leurs habitudes. Je suis chanceux. Ici, on a une équipe multidisciplinaire, nutritionniste, kinésiologue, infirmière, psychologue, ce qui permet d'offrir un suivi serré. Malheureusement, les groupes de médecine de famille n'ont pas ça. C'était « Mesurer correctement la tension artérielle est plus compliqué qu'il n'y paraît », un texte de Raphaël de Rome, paru le 12 mars 2024 dans Québec Science.
Le mystère archéologique de l'île Sainte-Hélène, un texte de Dave Noël, paru le 9 avril 2024 dans Le Devoir. À l'île Sainte-Hélène, des archéologues ont découvert les traces d'une cavité qui pourrait être associée au retranchement français creusé en 1760 pour défendre Montréal contre les armées britanniques du général Amherst. La cavité a été trouvée par hasard lors de la pose de conduites électriques souterraines. Ça pourrait être les retranchements, mais on n'a pas la confirmation hors de tout doute, prévient Mathieu Sévigny, de la firme Ethnoscope. On ne s'est pas rendu au fond de la tranchée, ajoute l'archéologue, en rappelant que les fouilles ont été réalisées dans le cadre d'une simple surveillance de chantier. Une dépression similaire avait également été observée en 2012 sous le chemin du Tour de l'île, qui correspond au tracé d'une partie des retranchements français de 1760. C'est un peu crève-cœur, commente M. Sévigny. Le mystère reste entier. Bastion. La fortification de l'île Sainte-Hélène par les troupes du général Lévis est le dernier acte de la guerre de la conquête qui oppose la France à la Grande-Bretagne pour le contrôle de l'Amérique du Nord. Les travaux commencent en août 1760, près d'un an après la chute de Québec dans la foulée de la bataille des Plaines d'Abraham. Armés de pelles et de pioches, les soldats du bataillon de Béarn et des troupes de la marine creusent une tranchée en zigzag sur le pourtour de l'île. Les militaires en bras de chemise progressent lentement à travers les vergers et les vignes qui alimentent la cidrerie du baron de Longueuil, dont la résidence d'été se trouvait près de l'actuelle biosphère. La terre extraite du fossé est jetée vers l'arrière pour former un parapet à l'abri duquel les soldats français et les miliciens canadiens pourront fusiller le moment venu. Cet ouvrage temporaire est maintenu en place à l'aide de paniers de branchage, que l'on appelle des fascines. Ça pouvait aussi être des pièces de bois coupées à l'horizontale ou de petits caissons, explique l'historien André Charbonneau dans un entretien avec Le Devoir. J'en ai vu de toutes les sortes. Le rebord extérieur du fossé est doté d'une palissade, comme l'indique la ligne pointillée que l'on aperçoit sur une carte britannique réalisée après la conquête. Il y a une double défense pour empêcher l'approche de l'ennemi, observe Charbonneau. C'était assez élaboré. Paradoxalement, les retranchements français de Sainte-Hélène sont défendus par l'artillerie britannique qui a été capturée devant Québec en avril 1760 lors de la bataille de Sainte-Foy. Les canons sont pointés en direction du courant Sainte-Marie qui longe le faubourg du même nom, en aval de Montréal. L'idée, c'était d'essayer de retarder la progression de l'ennemi, explique M. Charbonneau. Autodafé. Les troupes britanniques parties de Québec, du fleuve Hudson et du lac Ontario convergent vers Montréal au début de septembre 1760. Le déséquilibre des forces amène le gouverneur de la Nouvelle-France, Vaudreuil, à entamer des pourparlers avec le général Amherst. Ce dernier refuse toutefois d'accorder les honneurs de la guerre à la garnison française, ce qui signifie que ces officiers ne pourront plus combattre pour le reste du conflit qui se poursuit en Europe. Le général Lévis exige la rupture des pourparlers dans un échange houleux avec Vaudreuil. Ce partisan d'une guerre totale va jusqu'à proposer de livrer une ultime bataille à l'île Sainte-Hélène avec les munitions restantes pour faire plier le commandant britannique. Il serait inouï de se soumettre à des conditions si dures et si humiliantes pour les troupes, sans être canonné, écrit Lévy dans un mémoire à Vaudreuil, qui est surtout destiné à impressionner les ministres de Versailles à son retour en France. Face au refus du gouverneur, Lévy brise son épée puis ordonne à ses bataillons de brûler leurs drapeaux pour ne pas avoir à les remettre aux conquérants. Cet auto-da-fé textile va marquer l'imaginaire du Canada français. Selon une légende popularisée par le poète Louis Fréchette, la destruction des étendards n'aurait pas eu lieu à Montréal, mais à Sainte-Hélène, à l'endroit même où Lévy, ce héros noir de poudre couvert de sang, avait voulu livrer un baroud d'honneur digne de Fort Alamo. La légende de Sainte-Hélène sera suffisamment évocatrice pour être reconstituée au musée de cire de Montréal. La scène mettant en vedette un mannequin de Lévy recouvert de cheveux humains sera inaugurée à un an de l'Expo 67 qui a entraîné la fusion de l'île Sainte-Hélène avec sa voisine, l'île Ronde, par le déchargement de 28 millions de tonnes de terre et de matériaux dans le fleuve Saint-Laurent. Vestiges. Des segments des retranchements de 1760 étaient toujours visibles à Sainte-Hélène au début des années 1930, selon un entrefilet du Devoir de l'époque. Les vestiges auraient toutefois été comblés dans les années suivantes lors des travaux d'aménagement paysager de l'île qui avaient été ouvertes au public dès 1874. Il en ira autrement pour les fortifications britanniques du 19e siècle, intégrées au parc Jean Drapeau qui célèbre cette année son 150e anniversaire. Pour l'historien André Charbonneau, la fouille des anciens retranchements français de Sainte-Hélène permettrait de comprendre l'ampleur de ces ouvrages oubliés qui devaient retarder de quelques jours la chute de la Nouvelle-France. Si quelqu'un veut mettre en valeur ces vestiges du patrimoine, tant mieux, parce que ça nous aiderait à mieux connaître notre passé. C'était « Le mystère archéologique de l'île Sainte-Hélène », un texte de Dave Noël paru le 9 avril 2024 dans Le Devoir.
Pour ou contre les fruits et légumes surgelés? Un texte d'Isabelle Huotte paru dans le magazine Bel Âge. À certaines périodes de l'année, les fruits et légumes frais sont peu disponibles et assez chers dans les supermarchés. Devrait-on alors se tourner vers leur version surgelée? Tout à fait. Vous verrez, leurs avantages surpassent leurs inconvénients. Avantages économiques. Les fruits et légumes surgelés sont souvent moins dispendieux que leur version fraîche. À l'épicerie, il suffit de comparer les prix au poids pour faire les meilleurs choix. Autre conseil, il faut profiter des périodes de rabais pour faire des réserves au congélateur. Surveillez les circulaires des supermarchés. Pratique, les aliments sont lavés, coupés et donc prêts à être cuisinés. Rapide, plusieurs légumes sont blanchis avant d'être surgelés, ce qui permet de gagner du temps. En effet, blanchis, les aliments cuisent plus vite que quand ils sont crus. Nutritif. Les aliments surgelés sont cueillis à maturité et congelés rapidement après avoir été lavés, puis, pour certains légumes, blanchis. Ils conservent donc une excellente valeur nutritive, comparable à celle des produits frais, et supérieure à celle des aliments en conserve. Ces derniers subissent une perte des vitamines lors de la cuisson, avant la mise en conserve et de certains minéraux quand ils trempent dans l'eau ou le sirop. Toujours en stock. L'offre est abondante, les supermarchés ont une vaste sélection d'aliments surgelés et ce, toute l'année. Anti-gaspi. En utilisant seulement la quantité de fruits ou légumes désirés, on réduit le gaspillage alimentaire. Les surplus se conservent jusqu'à plusieurs mois au congélateur. Polyvalent. la version surgelée des légumes peut servir à réaliser une multitude de recettes, sauces, soupes, sautés, ragoûts, quiches, omelettes, etc. Quant aux fruits, ils s'insèrent à merveille dans une croustade, des muffins, des confitures, des smoothies, voire en garniture sur le yogourt ou le gruau. Inconvénient. Emballage. Contrairement à plusieurs produits frais, les fruits et légumes surgelés sont emballés et donc génèrent plus de déchets. Texture. Rien ne vaut l'appréciation gustative d'un fruit ou d'un légume fraîchement cueilli. Peu croquant et moins savoureux, les végétaux surgelés sont parfois moins appréciés du point de vue organoleptique. 4 trucs pour optimiser les denrées surgelées. 1. Bien les conserver. Pour éviter que les aliments ne sèchent ou subissent des brûlures de congélation, il faut s'assurer que la température de notre appareil ménager est à moins 18 degrés centigrades, 0 degré Fahrenheit ou moins, et que l'emballage est refermé de façon hermétique. 2. Décongeler adéquatement. Le réfrigérateur, le trempage dans l'eau froide et le four à micro-ondes sont sécuritaires pour amener les aliments à température pièce. Dès lors, on peut procéder à leur cuisson. Il est aussi possible de cuire les aliments au four sans les décongeler au préalable, mais le temps de cuisson sera plus long. 3. Ne pas recongeler. Si on veut remettre au congélateur des fruits ou des légumes qui ont déjà été surgelés puis dégelés, il est préférable de les faire cuire avant. 4. Maîtriser la cuisson. Afin de préserver les valeurs nutritives des fruits et légumes surgelés, mieux vaut ne pas les cuire trop longtemps. En effet, une cuisson prolongée à température élevée ou dans un grand volume d'eau favorise la perte de nutriments. À privilégier, les méthodes de cuisson rapide et celles qui nécessitent peu d'eau, vapeur, four à micro-ondes, etc. Les recettes qui conservent l'eau de cuisson, comme les soupes et les mijotés, sont également de bonnes options pour préserver un maximum de nutriments. C'était « Pour ou contre les fruits et légumes surgelés ?» un texte d'Isabelle Huot paru dans le magazine Bel Âge.